Quand on voit des gens à la télé, ou en vrai, qui marchent sur la route, on pense tout de suite à des réfugiés qui fuient la guerre ou une catastrophe quelconque. C'est la règle qui, comme tout, a son exception. En effet, pendant des siècles, les caractéristiques des Israélites éparpillés, de par le monde, du moins des hommes, est de se rendre en masse au temple de Jérusalem 3 fois par an. C'est à l'occasion de ces pèlerinages qu'était chantée une série de 15 psaumes appelés « Cantiques des montées » ou « Chants des caravanes de pèlerins » ou encore « En marche vers la maison ». Le mot « montée » vient de l'expression habituelle « monter au sanctuaire » ou « monter au temple » ou « monter à Jérusalem ». Exode chapitre 34, verset 24, 1 Samuel chapitre 1, verset 3, 1 Roi chapitre 12, verset 28, Luc chapitre 2, verset 42 et chapitre 18, verset 10, Actes chapitre 24, verset 11, etc. Cette appellation a une double origine. Comme le temple est construit en hauteur sur une colline, on doit gravir une pente puis des escaliers. Mais en second lieu, monter au sanctuaire exprime le sentiment de respect des fidèles pour l'Éternel qui a fait de ce lieu sa résidence terrestre. Le temple est vraiment le centre et le summum de la vie nationale d'Israël. Ces 15 psaumes sont chantés par les pèlerins juifs 3 fois par an sur les routes qui mènent à Jérusalem. Je lis un passage du psaume 122. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, où tout est bien joint. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel, selon la loi en Israël, pour y louer l'Éternel. Psaume 122, versets 3 et 4. Et Dieu, parlant par la bouche du prophète Ésaïe, exhorte les Israélites à chanter et à se réjouir en ces occasions. Je cite le texte. Cependant, parmi vous, retentiront des chants comme en la nuit de fête, et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes, au mont de l'Éternel et vers le rocher d'Israël. Ésaïe, chapitre 30, verset 29. Selon la loi de Moïse, tous les Hébreux, hommes valides, sont tenus d'assister au moins à l'une des 3 fêtes annuelles, la Pâque, les moissons, la Pentecôte, ou les cabanes, tabernacle, afin de louer l'Éternel, de l'adorer et d'offrir des sacrifices. Les Israélites partent alors de tous les pays du bassin méditerranéen où ils sont dispersés pour se rendre dans la ville sainte, amenant leur famille avec eux quand cela est possible. Après l'exil babylonien, le temple fut reconstruit, puis le prêtre Esdras remis en vigueur la célébration des 3 fêtes solennelles. Suite à ce rétablissement, les pèlerinages redoublent d'importance. En effet, plus les Israélites se voient dispersés dans les nations païennes et plus ils ont le temple à cœur parce qu'il est le symbole visible de leur identité et plus ils tiennent à célébrer ces 3 fêtes parce qu'elles contribuent à maintenir leur unité. Les caravanes se donnent rendez-vous à environ une journée de marche de Jérusalem. C'est là que les Juifs se retrouvent, prennent des nouvelles les uns des autres et se rappellent de l'époque glorieuse d'Israël, du bon vieux temps, comme on dit. Ensuite, ils cheminent ensemble vers Jérusalem tout en chantant ces 15 psaumes. Dans son évangile, Luc rapporte l'un de ces pèlerinages auxquels participa Jésus quand il avait environ 12 ans. Donc, bien avant qu'il ne commence son ministère vers l'âge de 30 ans. Luc chapitre 2, verset 42. Les sages juifs voient, dans ces 15 cantiques démontés, une analogie à la vie qui doit être pour chacun de nous une montée vers Dieu. En effet, nous commençons tous à la case départ comme pécheurs coupables, séparés de Dieu créateur. La première chose qu'il me demande est de venir à lui pour être pardonné et recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Ensuite, je suis appelé à progresser dans la foi et dans ma connaissance des Écritures et de Dieu lui-même. Ma vie spirituelle doit donc être une montée continuelle jusqu'au jour où j'atteindrai le royaume des cieux, ma destination finale et ma vraie patrie. Ces 15 psaumes, avec leurs détails pittoresques et gracieux, offrent entre eux des analogies qui leur donnent un air de famille assez marqué. Cette collection de psaumes constitue un groupe distinct, une sorte de mini-psautier. Ce sont de véritables œuvres d'art pleines de charme. Ils forment un tout dont l'ordre ne peut pas être changé, car ils ont été groupés de façon systématique autour du psaume central, le 137, qui est attribué à Salomon. Ce psaume mentionne trois fois Yahvé, l'Éternel, tandis que les deux séries des sept psaumes qui le précèdent et le suivent contiennent chacune 24 fois le mot Yahvé. On peut aussi diviser ce mini-psautier en cinq groupes de trois psaumes chacun. Les deux premiers groupes parlent des pressions extérieures que subit l'âme pieuse, de la foi qui s'étend à l'intervention divine, de la prise de conscience de qui est l'Éternel et finalement, du choix de Jérusalem comme lieu de résidence de Dieu. Le troisième groupe a des points communs avec la littérature et la sagesse ou comment bien vivre. La grâce, la rédemption, le pardon, la prière ou le culte n'y sont pas du tout mentionnés. L'accent est plutôt mis sur la vie familiale. Le quatrième groupe est axé sur la piété et l'école de la patience. Leur dernier groupe est dominé par des thèmes qui constituent l'héritage historique des Israélites comme le choix de Dieu, l'alliance, la communauté et le sanctuaire. Le psaume 120, le premier de la série, exprime les soupirs d'un juif habitant au milieu d'un peuple infidèle et barbare, ainsi que les gémissements de la nation d'Israël en butte à l'hostilité des païens. Le psaume 120 montre combien les fêtes répondent aux besoins profonds des Israélites de maintenir leur identité nationale en tant que peuple de l'Éternel. Je commence à le lire. Cantique des montées pour la route vers la demeure de l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Psaume 120, les versets 1 et 2. Le psalmiste commence par des paroles de reconnaissance pour le secours qu'il a reçu de l'Éternel dans le passé. Puis il en vient au vif du sujet, en exposant sa détresse. Le verbe hébreu traduit par « délivre-moi » signifie littéralement « arracher sa proie à un fauve ». 1 Samuel, chapitre 17, verset 35. Parce que le mensonge et la calomnie dévorent leurs victimes comme un animal. Le psalmiste est dans une situation épouvantable. À la fin du psaume précédent, il se disait errant comme une brebis. Et maintenant, il se voit comme livré à la gueule du loup. De nos jours, en Occident, il est de bon ton de protéger les groupes minoritaires, mais pendant longtemps, la chasse aux Juifs était ouverte 365 jours par an. Partout où ils étaient dispersés, devenait pour eux une fournaise ardente chauffée à blanc par un antisémitisme farouche. Aucun peuple n'a autant été dénigré et persécuté que les Juifs, que ce soit par la violence pure et simple ou par des accusations injustifiées, ils ont tout subi. Je continue le psaume 120. Que te donnera l'Éternel ? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches guerrières chargées de braises de genêts. Psaume 120, versets 3 et 4. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les assaillants incendiaient les villes assiégées avec des flèches enflammées. Le genêt est un bois très dur qui donne un feu ardent. Cette image est également utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les armes du diable, Éphésiens 6, verset 16, et dans les Écritures. La calomnie est comparée à une flèche, psaume 64, verset 4, et un feu, Proverbe 16, verset 27. Mais gare, car l'Éternel répond aux mauvaises langues par son jugement. Celui qui utilise sa langue pour tromper sera lui-même percé et brûlé. Je continue. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Psaume 120, verset 5. Méchec est une localité d'Asie mineure fondée par un fils de Chaphet, l'un des trois fils de Noé, dans Genèse 10, verset 2. Ce peuple s'étendit jusqu'au Caucase. République de Géorgie, du Daghestan, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Kédar, lui, est un des fils d'Ismaël, le père des Arabes. Il donna son nom à une tribu nomade du désert d'Arabie, dans Genèse 25, verset 13. Ces deux peuples sont une métaphore qui représente les nations hostiles autour d'Israël, une situation qui dure. Je finis le psaume 120. Malheur à moi, je vis entouré d'étrangers, comme environné de barbares. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Psaume 120, les versets 6 et 7. Ces paroles sont d'actualité depuis toujours. En effet, Jérusalem n'a pas souvent connu la paix. Et cet état de fait ne changera que le jour où elle sera la capitale du Messie. Ce psaume, avec sa plainte et ses menaces, représente le sentiment des Israélites vis-à-vis du monde profane dont ils ont tant souffert. Mais pour un temps, les Juifs opprimés laissent ses fardeaux derrière lui, fait ses valises et commence son périple en direction de Jérusalem. Nous arrivons au psaume 121 qui rapporte un dialogue entre un pèlerin se rendant à Jérusalem et les siens qui restent en arrière. Alors que le cantique précédent évoque les persécutions en terre étrangère, celui-ci nous amène jusqu'aux collines de Jérusalem. Je commence à le lire. Pour les pèlerinages, je lèverai les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Psaume 121, verset 1er. Ce psaume est chanté au moment du départ, en vue du voyage. Dès à présent, le pèlerin a les yeux rivés vers l'horizon, rempli de l'espoir de bientôt voir les montagnes qui entourent Jérusalem, la ville bâtie sur le mont Sion. Tous les pèlerins, d'où qu'ils viennent, devront traverser le terrain accidenté et sauvage de la Judée avant d'atteindre Jérusalem. Avant d'arriver à destination et tout au long de leur périple, les pèlerins auront à affronter des contrées arides et infestées de pillards, avec la possibilité qu'une attaque soudaine dans les ravins ou les défilés solitaires. C'est à la pensée de tous les dangers que représente un tel voyage que le psalmiste demande « D'où le secours me viendra-t-il ? » Je continue. « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Psaume 121, verset 2. Ce ne sont pas des collines qui peuvent offrir une aide en cas de réel besoin. De plus, à leur sommet, les païens et même des juifs y construisaient des autels idolâtres, ce que Dieu n'apprécie pas du tout. Le secours du pèlerin juif est l'Éternel. Ayant créé toute chose, il est tout-puissant et peut préserver ses fidèles de tous les dangers. À ce sujet, Jérémie écrit « Certainement, on s'attend en vain aux collines et à la multitude des montagnes. Certainement, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est la délivrance d'Israël. » Jérémie chapitre 3, verset 23. Je continue le psaume 121. « Qu'il te garde des faux pas. » Que ton gardien ne dorme pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Psaume 121, les versets 3 et 4. La famille qui reste en arrière est inquiète. Mais c'est l'occasion pour ceux qui partent d'exprimer leur entière confiance en celui qui veille, étant constamment sur le qui-vive. Je continue. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est comme une ombre qui te protège. Il est à ta main droite, et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Psaume 121, les versets 5 et 6. La main droite dénote l'action rapide, tandis que l'ombre évoque la protection, surtout dans un pays chaud et aride où une insolation est toujours possible. La mention de la lune n'est pas seulement due au besoin du parallélisme, parce qu'on sait que, dans l'hémisphère sud, le clair de lune peut produire le même effet qu'un coup de soleil. Cependant, les fidèles s'attendent à l'Éternel qui, de nuit comme de jour, veille sur eux pour les protéger. Je finis le psaume 121. « Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il préservera ta vie. L'Éternel veillera sur tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. » Psaume 121, les versets 7 et 8. Les pèlerins qui se dirigent vers Jérusalem se déplacent en caravane. Comme les motels n'existent pas, ils campent en route. Tout au long du périple, aller et retour, ils comptent sur la protection de l'Éternel. Le psalmiste se dit alors que si Dieu peut le garder pour un voyage, il peut le faire tous les jours de sa vie. Il élargit donc son espérance pour dire « L'Éternel veillera sur tes allées et venues dès maintenant et à jamais ». Dans le même ordre d'idées et dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qu'il préserve par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin ». 1 Pierre chapitre 1er, les versets 3 à 5. Il existe plusieurs façons de préserver les aliments périssables, avec du sucre, du sel ou du vinaigre. Les chrétiens qui sont gardés dans le sucre sont gentils et doux. Ceux qui sont au sel se préservent du mal. Pour les autres qui sont au vinaigre, ça se passe de commentaires. L'espérance vibrante du pèlerin qui déclare « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre » se retrouve dans de nombreux textes, comme par exemple « L'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège » Proverbe 3, verset 26. Il peut trébucher, cependant jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. Psaume 37, verset 24. Il gardera les pas de ses fidèles. 1 Samuel chapitre 2, verset 9. Et dans son épître, Jude dit « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche, en exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen !» Jude 24, verset 25. Quand les pèlerins établissent leur camp dans un endroit inconnu et inhospitalier, ils peuvent dormir tranquilles parce que celui qui les garde veille sur eux de nuit comme de jour. Je finis de lire le psaume 121. L'Éternel sera ton gardien comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Psaume 121, les versets 5 et 6. En été, sur la plage, on voit souvent des gens rouges vifs façon homard à cause du soleil. Mais un coup de lune, c'est bien plus rare. Pourtant, l'astre de la nuit nous influence beaucoup plus qu'on ne se l'imagine. Il n'y a qu'à penser au terme « lunatique ». Mais Dieu garde ceux qui lui font confiance, qu'ils soient exposés au soleil ou au clair de lune. Nous arrivons au psaume 122, le troisième cantique des montées. Le premier a décrit un Israélite en terre étrangère, victime de persécutions diverses, dont la calomnie. Dans le second, il prend congé de ceux qui ne peuvent se rendre à la fête et part pour Jérusalem où les hommes israélites convergent afin de se réjouir ensemble, renouer leurs connaissances et célébrer leur Dieu. C'est le cantique du départ. Maintenant vient le cantique de l'arrivée. Le psaume 122 est chanté par les pèlerins qui expriment leur joie alors qu'ils sont devant les collines de la Judée et qu'au loin ils aperçoivent déjà la ville sainte. Je commence à le lire. Cantique des montées. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. Psaume 122, les versets 1 et 2. Après un long périple éreintant, le pèlerin arrive presque devant les portes de la ville bien-aimée. Malgré la fatigue du voyage, il est transporté de joie parce que devant lui s'étale Jérusalem avec son temple majestueux resplendissant sous le soleil d'Orient. Ce passage annonce prophétiquement le millénium quand les Israélites des 12 tribus iront à Jérusalem pour y adorer l'Éternel, leur Dieu. Depuis la diaspora, les Juifs n'ont jamais regagné la possession incontestable de Jérusalem. Et il ne leur est toujours pas possible de reconstruire le temple à cause de la mosquée d'Omar qui se trouve à son emplacement. Mais tout cela changera parce que la nation d'Israël a encore un avenir radieux devant elle qui se réalisera quand Jésus-Christ reviendra pour établir son royaume. Le prophète Osée écrit « Les enfants d'Israël attendront pendant beaucoup de jours, sans roi, et sans prince, sans sacrifice et sans statut, sans éphod et sans théraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils viendront avec crainte à l'Éternel et à sa bonté au dernier jour. » Osée chapitre 3, les versets 4 et 5. Je continue le psaume 122. Ô Jérusalem, cité bâtie, où tout est bien joint. Psaume 122, verset 3. La vue des tours et des portes de la ville rappelle aux fidèles les temps glorieux d'autrefois. Cité bâtie est un terme qui désigne le relèvement des murailles de Jérusalem. Néhémie chapitre 2, verset 17 et psaume 147, verset 2. Dans l'Antiquité, une ville est considérée bâtie quand elle a des murs. Le vocabulaire sous-entend donc que les pèlerins se trouvent devant la Jérusalem rebâtie par Néhémie avec son mur d'enceinte en parfait état, toutes les brèches ayant été colmatées. Je continue. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour y louer l'Éternel. Psaume 122, verset 4. Comme je l'ai déjà dit, la loi de Moïse stipule que tous les hommes israélites doivent assister à au moins l'une des trois fêtes annuelles obligatoires qui sont la Pâque, les moissons, donc la Pentecôte, et les cabanes, fête des tabernacles, afin de célébrer l'Éternel leur Dieu. Je continue. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice et les trônes pour les descendants du roi David. Psaume 122, verset 5. Dans les Écritures, Jérusalem est la capitale religieuse, politique et judiciaire d'Israël. L'exercice de la royauté et de la justice vont de pair. Ils sont rattachés au pouvoir suprême de l'Éternel. Le vrai roi est le vrai juge d'Israël. Je continue. Priez pour la paix de Jérusalem, oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs et que la sécurité règne en tes palais. Psaume 122, versets 6 et 7. Les palais de Jérusalem devaient être des maisons fortifiées et probablement des tours, comme ceux de la Rome ancienne. Au Moyen Âge, en Italie, les maisons des seigneurs s'appelaient des tours et en étaient véritablement. Les pèlerins s'exhortent entre eux à prier pour la ville sainte, ce qu'ils font sur le champ. Comme je l'ai dit, ces cantiques sont rédigés avec soin. En hébreu, l'exhortation « Priez pour la paix de Jérusalem » compte 5 mots, dont 4 répétitions du même radical « shlal », allitération avec lequel sont construits les mots « Jérusalem » et « shalom » qui veut dire « paix » repos. Je finis le psaume 122. Pour mes frères, mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Pour l'amour de la demeure de l'Éternel notre Dieu, je souhaite ton bonheur. Psaume 122, les versets 8 et 9. Chaque pèlerin exprime son amour pour ses frères et la maison de Dieu en prononçant une bénédiction sur Jérusalem. L'affection des Israélites pour la ville sainte et son temple était l'expression de leur attachement à l'Éternel, leur Dieu.